Tu as pêché où? Baobab, acajou.
Dur de la feuille.
Baobab, acajou. Tu as pêché où?
L'émission qui susurre à vos oreilles.
Huron, cyprès, pin, élan de palissandre. Mais l'aise tremble, tremble être noyé.
Bienvenue dans un épisode de la série Feuilles de chou. La série qui interroge et nourrit l'information du vivant. Chaque épisode relate une actualité dans ses moindres recoins pour comprendre ce qu'elle signifie pour le vivant. Dans cette lancée si réaliste, je vous propose ensuite un extrait d'un récit fantastique avant de connaître les rendez-vous et éléments précieux à ne pas manquer. Le sujet du jour. 8 mars 2024. Publication du bulletin allergopollinique par le Réseau national de surveillance aérobiologique. Qu'est-ce que le Réseau national de surveillance aérobiologique et comment utiliser la plateforme de l'organisme? Comment les données sont récoltées en France? Qu'est-ce que les dernières publications de cet organisme nous apprennent de notre territoire? Quels outils existent déjà pour réduire les réactions allergisantes des humains?
Je serai triste comme...
Le RNSA, Réseau National de Surveillance Aérobiologique, est une association, loi de 1901, d'intérêt général créée en 1996 pour continuer les travaux réalisés depuis 1985 par le laboratoire d'aérobiologie de l'Institut Pasteur, à Paris. Sa mission principale est la surveillance opérationnelle des particules biologiques présentes dans l'air, plus particulièrement les pollens et les spores des moisissures et l'étude, bien entendu, de leur impact sur la santé. Le comptage pollinique est réalisé avec des capteurs et à l'aide d'analyses au microscope optique. Les capteurs fonctionnent avec une pompe aspirante qui permet d'avoir un débit d'air régulier, équivalent à la respiration humaine moyenne. Les pollens et les moisissures viennent s'impacter sur une bande adhésive située dans le capteur. Cette bande est ensuite récupérée et analysée en laboratoire par microscopie, par des analystes formés à la reconnaissance des pollens et moisissures. Par ailleurs, c'est une formation de 2 semaines dispensée par le RNSA. Afin de suivre au fur et à mesure l'évolution de la floraison des principales espèces végétales allergisantes, des observations sont faites sur les principales espèces à pollen allergisantes. On appelle cela le suivi des données phénologiques. Vulgairement, on pourrait nommer l'ensemble formé par ces données comme le calendrier saisonnier du vivant. Les données phénologiques sont essentielles pour comprendre les conditions de production du pollen qui est ensuite dispersé dans l'air. La surveillance phénologique est menée en collaboration avec l'association des Pollinarium Sentinelle de France. Joli nom pour cette association qui compte une 20aine de pollinariums et dont les données sont intégrées dans les calculs pour la prévision du risque pollinique. En parallèle de cette opération en laboratoire, des données cliniques sont également récoltées auprès de patients qui présentent du coup des réactions allergiques. Pour rappel, en France, plus de 20% de la population est identifiée comme directement concernée par les allergies au pollen. En 2023, une 100aine de médecins spécialistes ont rempli chaque semaine les bulletins cliniques en ligne. Ainsi, le RNSA a suivi au fur et à mesure de la saison pollinique l'existence de ce qu'on appelle des pollinoses, des réactions pollen, leur évolution, la fréquence et la gravité des symptômes associés. Il est ainsi possible d'établir un index clinique par médecin, par ville, par région et même national, révélateur de l'impact sanitaire de l'exposition au pollen. Toutes ces données alignées et mises bout à bout permettent de dresser un tableau assez complet pour les pollens recensés, du moins, afin de comprendre les tendances sur le territoire et comparer aux années précédentes. On peut par exemple déduire que les pollens d'ambroisie ont été responsables du dernier pic des symptômes allergiques de fin juillet à début octobre 2023.
J'ai quitté la vie sans rancune.
Chaque année, Le RNSA publie donc un rapport bilan accessible en ligne sur leur site. À ce rapport viennent se greffer des bulletins d'information périodiques pour avertir de l'arrivée de certains pollens et donner les conseils à suivre pour les personnes concernées. Ainsi, en ce beau mois de mars, alors que les aulnes amorcent leur déclin dans la production de pollen, les pollens de bouleau préparent leur grand retour, marquant ainsi le début d'une nouvelle phase dans la saison pollinique. En effet, les pollens d'aulnes, vous savez, cet arbre de proximité de rivière, qui était bien présent ces dernières semaines, perdent progressivement en intensité, réduisant ainsi le risque d'allergie associée au niveau faible à localement moyen. Les pollens de noisetiers ont disparu des radars, sauf en montagne, où on peut encore en retrouver un peu, mais avec un risque d'allergie faible. Les pollens de bouleau devraient commencer à être détectés dans l'air dans les semaines à venir, signalant le début de leur période de pollinisation. De mi-mars à fin avril, on devrait donc retrouver ces pollens de bouleau présents sur une grande partie du pays, plutôt sur le grand quart nord du pays. Les concentrations seront fortes lors des belles journées ensoleillées et les personnes allergiques seront gênées par ces pollens très allergisants. Les museaux radars à pollen doivent donc redoubler de prudence et anticiper des semaines à venir compliquées. Dans ce même bulletin, on apprend également que le sud n'est pas mieux loti avec sur le pourtour méditerranéen les pollens de cupressacées, nos chers cyprès, n'ont pas dit leur dernier mot et continueront de gêner avec un risque d'allergie élevé. De même, depuis quelques semaines déjà, quelques pollens de graminées sont présents dans le sud-ouest du pays, déjà présentes. Si les nombreuses averses de pluie au programme de ces prochains jours viendront lessiver les pollens dans l'air, les personnes allergiques doivent faire particulièrement attention aux périodes ensoleillées, printanières et venteuses entre les averses, qui favoriseront à l'inverse l'émission et la dispersion des pollens dans l'air. Et oui, s'il fait beau et que le vent nous permet d'amener nos graines plus loin, très chères dames fleurs vont procréer à foison. Sur le site Pollen Diary et via l'application Pollen Plus, vous pouvez ainsi compléter chaque jour vos symptômes d'allergie pour pouvoir comparer par la suite ces symptômes avec l'exposition réelle aux pollens de plantes les plus importantes en tant qu'allergènes. De même, la RNSA liste les conseils suivants pour mieux se protéger des pollens et limiter à leur exposition. Consultez régulièrement la carte de vigilance des pollens sur leur site internet. Rincez vos cheveux le soir, aérez les logements avant le lever et après le coucher du soleil. Évitez de faire sécher le linge à l'extérieur, gardez les vitres des voitures fermées pour éviter que les pollens ne rentrent. Portez un masque en extérieur, évitez les activités sportives à l'extérieur qui entraînent une surexposition aux pollens. Leur dernier conseil est criant sur les problématiques multiples rencontrées en ville. Soyez attentifs à la pollution atmosphérique qui peut exacerber les allergies au pollen dans certaines grandes villes. En effet, de nombreuses études sur le sujet démontrent l'augmentation des effets synergétiques du réchauffement climatique et de la pollution atmosphérique. Imaginez par la présence d'îlots de chaleur en ville. Qu'est-ce que c'est ? On pense à la zone bituminée de couleur noire sans végétation, dite ICU, îlot de chaleur urbain par excellence. Et on pense aussi à la concentration en particules fines qui est bien plus élevée en milieu urbain. Tout cela accentue les émissions précoces de pollen et la pénétration du pollen dans les voies respiratoires. Et pour cause, la pollution est un irritant puissant qui abîme les muqueuses des voies aériennes tout en dégradant tellement les grains de pollen que leurs parois se cassent et libèrent les petites particules d'allergènes. La pollution amplifie dès lors le caractère allergène des pollens en les rendant beaucoup plus agressifs. Une meilleure conception et gestion des plantations urbaines est un élément central de la problématique de l'allergie pollinique en ville. C'est pourquoi il doit s'engager une réflexion pour mettre en accord les objectifs de végétalisation des villes et la question des allergies aux pollens. Une bonne prise en compte du problème des allergies ne passe pas, par une suppression de toutes les plantes incriminées. Le résultat serait à l'inverse des objectifs sanitaires poursuivis. Il s'agit au contraire d'une réflexion raisonnée sur l'organisation et la gestion des espaces verts. L'allergie ne doit pas supplanter d'autres considérations, mais être un facteur pris en compte dans le choix d'un projet. En clair, éviter la plantation monospécifique de bouleau ou toute autre espèce fortement allergène est nettement préférable et entre dans une démarche plus globale de plantation diversifiée où on pourrait avoir de temps en temps quelques bouleaux. Et tout ça en faveur de la biodiversité et de la résilience écologique en milieu urbain. Pour conseiller les collectivités dans les choix de plantation des secteurs fréquentés de leur ville, un guide des végétations en ville a été édité par la RNSA et est en libre accès sur leur site internet. Certaines villes comme Montpellier, Paris ou Lyon se sont aussi dotées d'une charte de l'arbre dans laquelle elles s'engagent notamment à diminuer les proportions des espèces allergènes. L'idée n'est pas d'exclure certaines essences, mais plutôt de les diversifier et d'éviter de placer des plantes allergisantes à proximité d'une crèche ou d'un EHPAD, par exemple. De la même façon que les allergies polliniques seraient réduites avec de meilleures conditions de vie en milieu urbain, de nombreux autres bienfaits d'une démarche concertée collectivement en faveur du vivant et de la biodiversité sont encore à acquérir sur le territoire. Petit à petit, chaque acteur, aussi petit ou énorme soit-il, peut faire avancer cette longue mécanique. Et si nous tendions un instant la feuille au récit fantastique d'êtres qui s'associent face à des problématiques qui leur semblaient de prime abord insurmontables? Un léger goût de mangue.
Ce jour-là, quelque chose de gros, d'énorme, de gigantesque tomba du ciel. Le village se réunit. Non seulement c'était énorme, mais c'était terriblement lourd et impossible à déplacer. C'était assurément un gros problème. Les savants s'avancèrent. Ils annoncèrent que pour le pousser de là, il faudrait un moteur d'au moins 100 chevaux vapeur. On interrogea le grand chef des armées. D'après lui, pour le faire exploser, il faudrait une bombe d'au moins 1000 mégatonnes.
On pourrait le faire rouler,
proposa l'inventeur. Il partit aussitôt inventer une machine spéciale et il ne revint plus. Pourquoi, au lieu de penser à l'ôter de là, on ne réfléchit pas à la raison de son existence? Interrogea le philosophe.
Ouais. Je dis qu'il faudrait plutôt chercher d'où il vient,
affirma le curieux.
C'est peut-être le signe que la fin du monde approche, dit le pessimiste.
Ce sont nos voisins qui nous l'ont envoyé. Ils nous détestent, affirma le grand chef des armées, qui avait hâte de déclarer la guerre à quelqu'un pour pouvoir utiliser ces mégatonnes de bombes. Puis un autre organisa une manifestation. Une foule immense y participa, mais il ne se passa rien de plus. Le gros problème ne bougea pas d'un millimètre. Une fillette s'approcha, elle remarqua que le gros problème avait comme des petits trous. Elle alla chercher un escabeau, mit le doigt dans l'un des trous, puis le doigt dans sa bouche et...
Miam, ça a un goût de miel.
Elle en prit un petit bout pour le rapporter chez elle et le faire goûter à ses frères et sœurs. Les autres aussi en prirent un morceau.
Ça a un goût de concombre,
dit l'un. Moi je dirais plutôt un léger goût de mangue, dit l'autre. Le va-et-vient dura toute l'après-midi.
Certains lui trouvèrent un goût de pastèque, d'autres un goût de banane. Tout le monde avait oublié qu'il s'agissait d'un gros problème. À la fin de l'après-midi, du gros problème, il ne restait plus rien. « Et voilà !» dit le philosophe, d'un air important. « Si on le partage, même le plus gros problème n'est plus qu'un petit souci. » Et il se dépêcha de rentrer chez lui avant que ses enfants ne finissent les dernières miettes.
Abre o terreiro, camará, joga de Angola. Bate o pandeiro, camará, toca a viola.
Abre o terreiro, camará, joga de Angola. Bate o pandeiro, camará, toca a viola.
La jeune fille et le philosophe ont ainsi impulsé ce qui semble être la solution la plus gourmande et amusante. À ces gloutons du monde qui souhaitent se repaître de toute cette vie qui y habite, en créant de nouveaux imaginaires fertiles, faites-nous donc part de ces idées farfelues et colorées. Dans un corps de ferme au pied d'une colline boisée, canards et poules prennent le soleil au bord d'une mare. Ses habitants se délectent dans un écolieu construit en 2019, dans la vallée de l'A, sur la commune de Rumilly. Tristement célèbre depuis quelques mois, cette vallée a été aux premières loges des inondations dans les Hauts-de-France. Cette situation médiatisée est pourtant un phénomène qui s'amplifie d'année en année. L'érosion globale des sols dans la région Hauts-de-France et leur incapacité à infiltrer et retenir l'eau demeure la cause principale de ces catastrophes naturelles. Pour contrer ces effets, à l'échelle de leur écolieu, de rive en rive, on organise les terrains différemment. Ici, une fascine, sorte de petite haie de bois tressée pour retenir la terre du potager. Là, une baissière, un fossé qui répartit l'eau à travers le terrain. Le jardin est parsemé de mares, 6 au total, dont certaines sont reliées par des tuyaux. L'idée est de créer des zones tampons, qui peuvent stocker et filtrer l'eau, mais qui sont aussi une zone refuge pour la biodiversité. Tous ces aménagements, Jérôme et Audrey, propriétaires des lieux, les ont découverts à travers l'hydrologie régénérative, une approche venue d'Australie et définie comme la régénération des cycles de l'eau par l'aménagement du territoire. Pour une hydrologie régénérative, est une association créée en 2022 dans le sud de la France et qui s'inscrit dans la mise en place de pratiques durables de lutte contre les sécheresses et les inondations. À ce sol qui se brise et ressuscite dans les radicelles foisonnantes de plantules égarées progressant et s'éparpillant aux quatre vents. Cette série reviendra au gré de la pousse du chou. La semaine prochaine, nous tendons la feuille à un passionné du vivant avec cette question d'actu, cuisiner aux petits oignons.
Alissandre, mais les œufs tremblent, tremblent être noyés.